Et on s'en va en Gaspésie joindre l'amie chroniqueuse livre Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Vous avez lu pour vous, pour nous en fait, « Tu choisiras les montagnes », beau titre d'Andréane Frenette-Vallière.
Oui, un livre paru chez Norrois en 2022, 199 pages, et qui a été finaliste au prix des libraires encore cette année. Alors, j'avais déjà rencontré Andréane Frenette-Vallière ici même à Maria.
Ah oui?
Oui, en 2019, à l'été, au mois d'août, il y avait une soirée de poésie sous le chapiteau. Et à mon grand étonnement, le chapiteau était comble. Il y a ici un engouement pour la poésie parce qu'il y a un organisme qui s'appelle Poèmes en nous qui organise des événements poétiques. Et moi, c'était ma première rencontre avec tout ça. Et j'avais été vraiment touchée par les textes de cette femme. Il y en avait 5, je crois. Puis elle, c'était la plus jeune. Et je lui ai parlé à la fin. Et elle m'a appris qu'elle habitait, elle était née à Mont-Saint-Hilaire, donc une région que je connais bien. Et là, quand j'ai vu qu'elle était finaliste à ce prix, j'avais vraiment envie de lire cette jeune poète, donc qui a 33 ans, elle est née en 90. Elle a fait des études littéraires à l'UQAM et son mémoire de maîtrise a été revu et, réécrit en fonction de cette publication qui s'appelle « Tu choisiras les montagnes
okay. ».
Alors, sachant qu'elle est née à Saint-Hilaire, je ne sais pas, le titre avait déjà pour moi un sens en démarrant. Et puis présentement, elle est au doctorat. Elle combine dans son écriture, elle, la recherche, les lectures et la création. Donc, c'est très intéressant. Elle a déjà publié « Juillet le Nord » en 2019 au Norrois, et c'est ce qu'elle avait lu lorsque je l'ai rencontrée ici à Maria. Ensuite, elle a publié « Cestral », toujours au Norrois. Ces deux recueils de poésie-là font partie d'un triptyque, je dirais, qui se termine avec « Tu choisiras les montagnes », et ces trois titres sont vraiment axés sur le vaste paysage de la Côte-Nord. Puis pour ces titres-là, elle a eu le prix Félix Leclerc, le prix des libraires, elle était finaliste au prix des libraires, c'est-à-dire finaliste au prix Émile Deligan, comme quoi finalement elle est dans la voie là, pour bientôt avoir le prix des libraires. Donc, de quoi parle ce livre-là? Étonnamment, il est question de la violence conjugale que l'autrice avoue avoir vécue et puis elle est dans une démarche, je dirais, de guérison, une quête. Alors, elle avoue ça tout simplement dès le début, et je la cite, « Le premier partenaire amoureux de ma vie adulte a été violent avec moi. Cette phrase, je l'ai écrite des centaines de fois sans arriver à la comprendre, sans pouvoir lui trouver une place dans mon histoire où elle se tiendrait tranquille sans déborder. Cette phrase déborde dans chaque menu détail de mon existence. Cet homme était ma première rencontre significative avec l'amour et la sexualité. La relation a été empreinte de violences commises à mon endroit, psychologique, sexuel, puis s'est terminée dans les menaces de mort et les voies de fait. Je me rappelle avec précision du chant des insectes se réveillant à l'aube, car je m'étais cachée toute nuit dehors. » Donc, ça, c'est le contexte qu'elle nous avoue dès le début.
Oui, c'est dur.
Alors, c'est très dur et, en fait, c'est ça qu'elle va chercher à comprendre, à connaître, à travers
nommer.
Des auteurs. Oui, puis à travers des auteurs, parce qu'elle-même, elle est sans mots devant ce phénomène, cette agression, on pourrait dire ça comme ça. Donc, son essai est à la fois poétique, philosophique et féministe, parce qu'elle raconte une quête vers une vie meilleure, à deux voies, VOIX et VOIES, donc deux voies, deux chemins pour y arriver, la Côte-Nord et la montagne. Et puis deux voix, bon ben, elle va se créer un personnage. Elle est inspirée par Clarisse Lispector qui, dans Un souffle de vie, crée un narrateur qui, lui, va se créer un personnage féminin, Angela. Et à travers ce personnage-là, il va arriver à dire des choses que lui n'arrive pas à dire. Ce que fait Andréane Frenette-Vallière en créant le personnage Mona. Parce que finalement, là où elle va s'isoler très loin, ben elle peut pas parler avec personne, donc sa voix extérieure ne s'exprime pas, mais le personnage de Mona va aller chercher la voix intérieure. Et elle dit, au tout début, à la première page, « Je t'écris depuis la maison de vent. Je n'appartiens plus au monde. J'ai couché les herbes hautes pour me tapir sous les hirondelles. Des sternes vont et viennent dans ma tête, des idées m'obsèdent et me contraignent. Elles me contraignent car au lieu de me donner la force d'agir, elles paralyse. je cherche en elle une solution avec les moyens du bord, avec ma fermeture, avec ma froidure, je suis captive. Donc, pour arriver à s'exprimer, elle va écrire des lettres à Mona. Puis là, c'est écrit en italique dans le livre, donc il n'y a pas de confusion. Et quand c'est elle-même, Andréanne Frenette-Vallière, qui réfléchit, cite les auteurs qu'elle a lus, l'aspect, si on peut dire, plus recherche, bien là, c'est écrit en caractère romain comme d'habitude. Il y a beaucoup de notes en bas de page et moi, j'ai fait des belles découvertes, des lectures intéressantes parce que tous les auteurs qu'elle a lus, finalement, pendant son mémoire, sont là. Et elle dit, être une femme, c'est traverser chaque jour l'espace domestique, social et idéologique sous la menace d'être agressée. Cela fait partie des violences spécifiques qui compromettent la parole des femmes et tendent à faire d'elles des sujets définis en négatif. Il n'y a rien que je trouve à faire, rien d'assez grand pour la catastrophe qui m'est présentée. Alors j'écris de très petits poèmes, des chansons, des rêves, des lettres, et je les protège fermement. Donc c'est ce qu'elle va faire. Elle va aller s'isoler très loin dans la nature, que ce soit sur la côte nord, à l'île d'Anticosti ou dans les montagnes, et l'écriture va surgir plus facilement que quand elle est en ville, entourée de gens avec qui elle doit donc avoir des relations et faire la vie quotidienne. C'est sa façon à elle de s'extraire. Donc, c'est structuré en 6 parties où il y a toujours des textes très brefs qui sont parfois donc en italique, la voix de Mona, ou en caractère régulier, qui est la chercheuse qui questionne, puis qui s'interroge, puis qui cherche sa voix. Et la première partie s'intitule « J'ai en moi un cheval ». Et ça, c'est inspiré de Clarisse Lispector dans son livre « Où étais-tu pendant la nuit ?» où elle va dire qu'il y a un cheval intérieur qui parfois se tait, mais quand il rencontre un autre cheval, tout à coup, il a besoin de s'exprimer. Alors, c'est dans cette quête qu'elle cherche sa voix intérieure pour s'exprimer. Le deuxième s'appelle « Le temps debout ». Ça, c'est inspiré de Marie Béic qui a écrit « Anna Birgitte, photographe entre Paris et Natashquan ». Elle se trouve à Natashquan. Donc, elle veut dire les choses dans ce grand paysage désertique et elle va dire « Crier ici, c'est n'être pas entendu, mais c'est l'unique lieu où cela se peut. » Donc, vraiment, c'est loin de tout le monde, dans ces espaces-là, qu'elle va arriver à s'exprimer. Puis la troisième partie parle, ça s'intitule « L'ermite imaginaire ». Elle aborde à ce moment-là l'anorexie. À la fois l'anorexie comme une maladie, mais aussi une anorexie littéraire. Donc, elle va expliquer que dans la vie, le corps, le sien qui a été agressé, et dans l'idée judéo-chrétienne, quelque chose qui est un péché, et l'anorexique, elle va enlever toutes ses formes en maigrissant, elle n'a plus de sexualité, ou presque, et elle va dire que l'anorexie, en littérature, c'est n'être qu'une parole. Et elle va citer Rachel Leclerc. « N'être qu'une lueur ou un souffle, ne plus avoir de corps. » Donc, à ce moment-là, si c'est pas ton corps, c'est l'art, l'écriture qui va te permettre de t'exprimer. Puis elle dit que ça fournit un support aux voix les plus fragiles et ça leur permet de rendre compte de l'expérience qu'elles ont vécue, la sienne. Et elle dit que les filles qui sont emprisonnées dans ces situations, ben, ce sont des ermites imaginaires. Et elle dit, ces ermites vivent dans les boisés de la rêverie et y restent. Donc, elle est une ermite, elle vit toute seule là, quand elle s'en va dans cette maison. J'ai vu un film sur sa maison bleue où elle est à Natashquan, dans la fabrique culturelle, on peut voir ça, puis où elle s'isole pour écrire. La quatrième partie s'intitule vraiment « Disparaître ». Et là, ben, c'est sûr que pour les gens qui l'entourent, quand elle s'en va vivre là, elle disparaît. Elle n'est plus dans le décor, elle est absente, elle communique très peu avec ces gens-là. On ne sait même pas trop si elle a des réseaux Internet. Alors elle dit, parce que j'écris, j'ai besoin de disparaître en bloc pour retrouver paradoxalement cette disponibilité et cette présence pour les êtres et les choses du monde. Les longues heures accueillent la confusion que je déplace du fouillis à la lumière. Donc, il faut du temps aussi. Elle va faire ça lentement pendant qu'elle écrit là-bas. Puis, l'autre chapitre s'intitule « Je cherche une phrase longue faite d'oiseaux ». Là, ben, elle dit qu'une fois qu'elle est là-bas, ça c'est Mona qui s'exprime, elle dit « Je n'ai trouvé personne pour m'entendre que la nature ». Puis, effectivement, la nature est très, réconfortante. Il y a beau avoir, je sais pas moi, des tornades, des éléments qui perturbent la nature. À chaque printemps, on voit renaître, repousser. Donc, c'est un symbole de renaissance et c'est un petit peu ce qu'elle essaie de faire. Et elle dit, écrire exige que je me fasse toute petite devant le monde. Effectivement, c'est inspiré de Bakhtin qui dit que quand il s'incarne, il devient... il n'y a plus de limite, finalement. Et elle, elle habite les forêts. Quand elle va aller à la côte nord, au début, c'est la mer qui l'impressionne, mais peu à peu, elle aime mieux aller dans les forêts. Elle se sent mieux là. Elle dit habiter un lieu en marge du monde, vacillant dans de la méchanceté. C'est ça. Elle veut s'éloigner du monde réel où elle sent qu'elle est, elle peut être agressée encore, puis elle a ce souvenir-là tout le temps. Et elle dit que elle, le ciel aussi, c'est la nature. Elle observe le ciel, les oiseaux, beaucoup pendant tous les poèmes. Et elle dit, celle que nous voyons suffoquer, la nature, mais qui grouille pourtant encore et en laquelle se trouvent les conditions de l'avenir de l'humanité. Effectivement, donc elle va retrouver là l'espoir. Quand tu vois renaître, malgré la pollution, tout ce qu'on raconte, la nature est très forte. Et elle va s'identifier, elle va épouser la nature. Quand tu vis là, tu n'as pas le choix. Là. Tu dois conjuguer avec le vent et les intempéries. Puis elle nous raconte que le vent rentre dans la maison où elle est presque dans la mer. Et puis bon, ben, elle est heureuse de ça. Là. Elle n'a pas peur. Au contraire, elle va affronter ses peurs. Puis la dernière partie, ben, ça s'intitule « Les montagnes ». Donc, on comprend le titre « Tu choisiras les montagnes », c'est qu'à travers toutes les lieux qu'elle visite où elle s'isole, elle va aller beaucoup vers les montagnes, puis elle dit « Ce sentier en montagne, c'est celui de mon plus jeune âge. Cette montagne a toujours consolé. Cette montagne, comme une mère, elle m'a donné envie de force. » Elle va donc choisir ces montagnes, et dans ce chapitre, à plusieurs moments, on va, les gens qui connaissent le Mont-Saint-Hilaire vont reconnaître des lieux qui sont à peine nommés, mais comme quoi on revient à l'enfance aussi, on revient là où on est né. Et ça, c'est vraiment un symbole de renaissance pour finalement surgir dans une vie nouvelle, se donner la chance d'une vie nouvelle. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre-là, qui est à la fois poétique, mais aussi riche de ses lectures et de sa connaissance du sujet chez plusieurs auteurs différents. Et le style est poétique, mais très intime aussi. Il y a du vécu là-dedans, puis on sent toujours qu'elle est déchirée entre la violence et l'amour, parce qu'elle raconte dès le début que cet homme qui était violent avec elle, elle l'aimait beaucoup et il y avait beaucoup d'amour entre eux puis beaucoup de tendresse. Alors, comment ça se fait qu'on en arrive à ça? Puis comment ça se fait qu'il faut couper tout?
C'est le portrait classique.
C'est ça. Et donc, dans ce retrait, dans la solitude et le silence de la nature, elle va guérir, essayer en tout cas, et accéder à une renaissance qui ne va pas être facile, mais qui va être possible. Comment? Par le contact avec la nature, ce grand silence, puis par l'écriture, qui va lui inspirer tous ces vastes paysages où il n'y a à peu près jamais personne, elle ne parle jamais de quelqu'un qui passe. Non, ce qu'on voit, c'est des animaux, finalement. Alors, elle nous dit qu'elle a été plusieurs fois sur la côte nord, aux îles Mingan, à Anticosti et dans plusieurs montagnes. Donc, l'altitude, aussi à un moment donné, elle raconte combien c'est difficile de respirer quand tu es en altitude, et la latitude, parce qu'elle est loin des siens, vont faire d'elle une nouvelle personne. C'est du moins ce qu'on comprend. Alors moi, je dis bravo pour l'audace de cette jeune poète de raconter tout ça. C'est très touchant. Et je me dis que, outre le plaisir littéraire que j'ai eu à lire tout ça, j'ai été aussi, en tant que femme, très touchée par cette violence, effectivement. On parle comme jamais des féminicides depuis quelques années. Et ça doit être dit, ça doit être expliqué. Et là-dedans, elle ne trouve pas de solution. Là. C'est jamais non plus la fille qui s'apitoie sur son sort, qui souffre. Jamais, jamais. C'est une personne qui est en quête de quelque chose d'autre et qui veut s'exprimer.
Une voix donc qui retrouve la parole en quelque sorte dans la nature, dans la Mingani. Et ouais. À souligner aussi la belle couverture qui est l'œuvre de Karine Locatelli. Je rappelle le titre « Tu choisiras les montagnes » aux éditions du Norrois. Et c'est écrit par la poète, l'écrivaine Andréanne Frenette-Vallière, qui est toute jeune, mais qui est une autrice à découvrir. Merci beaucoup, Anne-Marie.
Au revoir.
Bonne journée.